voudrais juste dire, vous avez dit la science est faite de débats et donc il faut enseigner les débats. Et en vous écoutant, je me dis, dans quelle discipline on m'a enseigné des débats dans l'enseignement secondaire? En mathématiques, non. En physique, non. Il y a des grands débats en physique. Est-ce que les élèves en ont une trace? Je ne sais pas. Je me rappelle à l'école des mines, les murs tremblaient parce qu'il y avait deux géologues qui n'étaient pas d'accord. L'un disait que les Apennins étaient sortis avant les Alpes et l'autre disait le contraire. Bon. Il y a sans arrêt des controverses. Est-ce qu'on en voit trace dans l'enseignement secondaire? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on aime bien transmettre des certitudes plutôt que des doutes méthodologiques.
C'est certainement plus facile de transmettre des certitudes que des doutes. Par exemple, juste sur le commerce, je suis d'accord avec mon voisin. Il faut de l'histoire, il faut des faits. C'est bien évident que si vous demandez à un gosse de 15 ans lui parler de commerce international, il faut d'abord lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé, lui parler du volume des échanges aujourd'hui, de la nature, de ce que ça fait. Et puis à ce moment-là, on peut effectivement mettre de l'avantage comparatif et en restant assez prudent sur ce que ça prouve au niveau du commerce mondial, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étapes avant de parvenir à la conclusion que tout ceci est pour le mieux dans le meilleur du monde, qui n'est absolument pas une conclusion consensuelle. Donc, on peut introduire le débat, mais ce n'est pas très facile, il faut bien voir. Ce n'est pas très facile de dire, à ce niveau-là, bien, il y a des gens qui pensent que, etc., on peut compenser les perdants, qu'il n'y a pas de perdants. Il y a des gens qui pensent qu'on peut compenser les perdants. Il y a des gens qui pensent qu'on pourrait, mais qu'on ne fera pas. Il faut rester assez ouvert. Ce n'est pas facile. Et on préférait dire tout va bien ou tout va mal. Il y avait une tentation aussi de dire tout va mal. La remplacer par la tentation de dire que tout va bien n'est pas nécessairement un progrès concret.
Mais là, dans ce programme, ce n'est pas le cas. Parce qu'il s'agit de montrer. Les indications sont claires. Enfin, j'ai vérifié le programme actuel de terminale qui existe encore pour 2 ans. Il s'agit de s'interroger à partir de la notion d'avantage comparatif, qui, encore une fois, que je revendique que devoir avoir sa présence dans les programmes de SES. Parce que c'est vrai que ces outils scientifiques permettent de circonscrire l'espace du débat. On est bien d'accord, il ne s'agit pas de sombrer dans le relativisme, ça permet d'écarter certaines idées que les pays pourraient se spécialiser dans tous les domaines. Et évidemment, ça fait partie des pré-notions d'ailleurs, de départ peut-être des élèves, qu'il va falloir pouvoir écarter grâce à cette notion-là. Mais aujourd'hui, là, d'accord, il s'agit de le remettre. Donc on est ici au cœur de la logique de l'évolution des programmes de sciences économiques et sociales, où au lieu de replacer ça dans un contexte qui permet justement d'ouvrir sur un débat, il s'agit en fait de le poser comme une notion qui a une valeur en soi. Alors que, moi, je suis très attaché à l'idée que ce sont des sciences économiques et sociales, des disciplines à visée scientifique, et de montrer aux élèves ce que c'est qu'une démarche scientifique. Dans les rapports d'orientation de l'APSES, on cite, c'est une volonté personnelle d'ailleurs, de citer Gaston Bachelard, « Toute connaissance est réponse à une question ». Et il me semble que c'est le point de départ de ce que doit être un enseignement de sciences, économiques et sociales, mais aussi de physique, aussi de biologie, etc. Et autrement dit, replacer l'usage de ces notions-là dans des questions qui leur donnent du sens.
Oui, là, il y a un petit peu de travail, je pense.
Et bonjour, Jean-Yves Masse, professeur de sciences économiques et sociales. À vous écouter, on a quand même l'impression qu'on est un petit peu, tout est un petit peu décontextualisé. Bon, je rappelle quand même que ces programmes provoquent la colère, voire une grosse colère de la part de chez beaucoup d'enseignants, dont je fais partie, au point que, effectivement, si ces programmes sont maintenus tels quels, effectivement, en première l'an prochain, certains appellent à boycotter les programmes. À ne pas appliquer effectivement ces programmes. Alors pourquoi? Je pense qu'en fait, on en a parlé un petit peu, mais il faut quand même rappeler que tout ça ne tombe pas du ciel. Vous avez dit, on semble s'étonner que ces programmes on a eu un mois et demi pour les construire, mais ils étaient déjà construits. Enfin, je veux dire, ils étaient déjà là. C'est pour ça qu'ils sont. Il n'y a pas besoin même d'un mois et demi. Enfin, tout le monde le sait. Les témoignages sur la commission d'experts qui s'est réunie sont tous formels. Ils étaient déjà écrits, on le sait. Ils sont écrits par qui? Par un organisme, en partie. Enfin, je veux dire, ils étaient en tout cas, on le sait. Enfin, bon, les coups de fil. Il y a une campagne de presse depuis 10 ans en France de la part de l'IDE, l'Institut d'entreprise de M. Pébrot, qui vise à complètement liquider les sciences sociales au lycée. Il ne faut pas avoir peur des mots, c'est comme ça que ça se passe. Donc ces programmes, effectivement, ils ont été dictés. Ils sont quand même en adéquation, effectivement, avec les revendications du MEDEF et de l'IDE. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez clair. Ils ne tombent pas du ciel. Et encore une fois, je pense qu'en fait, on est quand même dans un pays démocratique, dans une république, où l'indépendance de l'enseignement, je pense que c'est quand même quelque chose de sacré. Monsieur Guenry, vous êtes universitaire, vous êtes un intellectuel. Je pense que vous êtes attaché, non, à cette indépendance de l'enseignement, à cette indépendance, effectivement, de la pensée. Or, là, on a clairement, effectivement, une atteinte à la laïcité, puisqu'en fait, on a un groupe de pression qui s'est introduit par des moyens divers et qui a dicté, pratiquement, ces programmes de SES. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rappeler. D'autres, juste une petite chose. Vous avez parlé effectivement d'une sorte de remise en cause hein, des sciences économiques ou la responsabilité hein, de l'idéologie néoclassique dans la crise actuelle. Mais je trouve ça absolument génial, c'est qu'effectivement, cet enseignement est remis en cause. On a eu pas mal d'articles dans Le Monde l'an dernier, dans les grandes universités américaines. Mais nous, par contre, il va falloir qu'on l'enseigne, alors que partout dans le monde, il est remis en cause. Nous, justement, en SES, il va falloir effectivement qu'on apprenne aux élèves les fondements de cette science sociale qui a quand même été, cette science économique qui a quand même connu, il me semble, quand même quelques problèmes, en tout cas récemment, au vu de la crise financière. Merci.
Je veux bien répondre. Je ne suis pas sûr que je suis toujours d'accord exactement avec ce que vous dites. Mais non, je ne crois pas que le programme a été téléguidé. Les universitaires qui étaient dans la commission, d'ailleurs, il y avait également un président de l'APSES qui est parti, qui n'est peut-être pas resté jusqu'à la fin, je ne sais plus rien. Les universitaires qui étaient dans la commission ont fait ces programmes en passant d'un extrême à l'autre, hein, c'est-à-dire d'une logique d'objet à une logique de concept. Moi, je crois qu'ils sont trompés. C'est plutôt une caricature de la vision universitaire de l'enseignement qui consiste à en faire l'équivalent d'un enseignement de première année. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. C'est mon avis, je l'ai défendu. Mais je ne crois pas que c'est le programme écrit par l'IDE. Donc, moi je ne crois pas que ce que vous dites est vrai. Je crois qu'il y a un biais universitaire, etc. Parce que l'entreprise n'est pas tellement hégémonique dans les nouveaux programmes. Je n'ai pas vu comme ça. Deuxièmement, le savoir économique. Alors là, on est tout à fait en désaccord. Bien entendu que le savoir économique, que j'ai écrit, si vous voulez, un texte sur la responsabilité des économistes dans la crise, je crois qu'il y a bien sûr une défaillance assez grave du savoir économique, je ne dis pas le contraire. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, ça veut dire que sur certains plans, c'est-à-dire le fonctionnement des marchés financiers, on s'est planté. Ça ne veut absolument pas dire que tout ce qu'on a fait, tout ce que les gens ont pensé dans les 40 dernières années soit stupide ou idiot. Hein. C'est simplement, il y a des briques. Ces briques, quand on les met ensemble, la maison ne tient pas. Alors, à l'idée que partout, on remet en cause ce savoir, bah, dans une certaine mesure, c'est vrai, oui. Mais qu'on change les programmes des universités partout dans le monde, ça, c'est pas vrai du tout. Il y aura des mouvements, il y a des glissements de terrain qui vont faire que les choses vont sûrement changer. Mais pour l'instant, la mondialisation du savoir, avec probablement ses excès, ses avantages et ses inconvénients, elle est toujours là. Hein. Je mets quand même pas mal de bémols sur la deuxième partie de ce que vous avez dit.
Je passe la parole à Jean-Damien Pau de l'Institut de l'entreprise.
Oui, bonjour. Quelques mots pour rectifier ce qui mérite de l'être. Je pense que l'Institut de l'entreprise ne mérite ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. C'est-à-dire que l'Institut de l'entreprise n'est en rien derrière le nouveau programme, derrière les nouveaux programmes. Alors, l'Institut de l'entreprise a été consulté. C'est peut-être ça ce que vous aviez en tête quand vous avez parlé de téléphone. Moi, ce qui me paraît dangereux dans tout ça, c'est que se dessine une sorte de théorie du complot avec les forces noires, les forces occultes du patronat qui, en collusion avec le pouvoir politique, seraient en train de tenir la main des rédacteurs du programme. Je crois que la vérité est très loin de tout ça. C'est-à-dire que l'Institut d'entreprise a été, oui, consulté. L'Institut d'entreprise n'est en rien l'auteur de ce programme et l'Institut d'entreprise ne se reconnaît pas particulièrement dans ce programme. D'ailleurs, ce n'est pas son métier que d'écrire des programmes, encore une fois.
Si on reste sur le programme de première, il y a des parties sur les défaillances de marché, d'accord. Mais c'est vrai qu'on nous demande, on a 5 heures. On a 5 heures pour traiter quelles sont les principales défaillances du marché, asymétrie d'information, externalité, bien collectif. Donc on voit bien, enfin, c'est l'empilement de notions, c'est-à-dire que oui, d'accord, ok, il y a des outils qui sont importants, etc. Mais on se leurre d'abord totalement sur la capacité d'abstraction d'un élève de première, totalement. Et on voit bien que si on traite ce programme à la lettre, on empile les notions et elles n'ont aucun sens pour les élèves, aucun sens heuristique pour comprendre le monde et pour vraiment avoir une démarche scientifique. Parce que la démarche scientifique, ce n'est pas d'empiler des notions, c'est aussi de les confronter éventuellement à des réalités, à des faits. Voilà.
Elisabeth.
Moi, je voudrais revenir sur une critique qui a été faite aux sciences économiques et sociales, donc c'est de prêcher la haine de l'entreprise. Et savoir comment vous entendez ce reproche, est-ce que vous considérez qu'il est complètement hors sujet, ou est-ce que un des objectifs des sciences économiques et sociales, c'est ça, c'est de donner du goût pour l'entreprise, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Et alors, je voudrais citer deux choses. Ces jours-ci, il y a un clip qui a été diffusé sur Internet, qui a eu un certain succès, c'était J'aime ma boîte, je sais pas si vous avez vu passer ce truc-là. Une espèce de truc assez ridicule et qui a fait beaucoup rire parce qu'on voit des gens qui, il y avait la journée J'aime ma boîte. Bon, et d'un côté, côté, c'est effectivement assez ridicule. Et d'un autre côté, pourquoi les entreprises, c'est ridicule et pourquoi il y a cette espèce de culture. Et je voudrais citer un tout petit exemple. Alors, ça ne se passait pas en première ou terminale, ça se passait en troisième. C'est ma fille qui était en troisième en cours de, je ne sais pas si c'était technologie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme cours en troisième où on est susceptible de passer parler de l'entreprise. Et elle avait fait un stage dans une entreprise un peu particulière qui était une SCOP, qui est venue d'ailleurs à l'école de Paris, c'était la SCOP Ardelaine. Et le prof écrit au tableau, l'objectif de l'entreprise est de dégager du profit. Et là, elle lève le doigt et elle dit, mais je ne crois pas, je crois qu'il y a d'autres objectifs pour l'entreprise. Et commence un débat dans la classe qui a beaucoup intéressé non seulement les élèves, mais le prof qui m'en a parlé après la réunion de prof, il n'a jamais vu un débat comme ça. Et je crois que si on prend des élèves de troisième et peut-être aussi de seconde et peut-être encore de première, par un sujet comme ça qui est très basique, alors peut-être c'était ce que voulait dire monsieur en disant bah, finalement l'enseignement de théorie économique du passé avec quelque chose de peut-être simple à appréhender, ça peut être une façon d'accrocher les élèves. Mais voilà. Et alors, dernier point que je voulais citer, on a eu une séance à l'école de Paris récemment avec quelqu'un qui nous a parlé des entreprises sociales, Jean-Claude Borello, et qui disait que ce soit à HEC ou ailleurs, il y avait une attirance très très forte des étudiants qui voulaient en savoir plus sur les entreprises sociales et sur etc. Alors je me demandais si l'image qui est présentée de l'entreprise dans l'enseignement, je vais dire une horreur, hein, mais ou quelque chose de très caricatural, n'est pas effectivement comme le reproche peut-être certaines critiques, un peu caricatural. Est-ce qu'il n'y a pas une façon renouvelée de présenter le monde de l'entreprise, ou est-ce que c'est complètement en dehors des sujets que vous êtes censés traiter?
Alors, très simplement, je vais rappeler ce que c'est qu'une discipline scolaire. Elle a des finalités comme l'histoire-géographie, comme la science physique, comme la biologie, etc. On a des finalités de formation citoyenne, hein, donc d'aider les élèves, par exemple, à mieux se situer dans le monde qui les entoure. Puis des finalités disciplinaires, former aux disciplines constitutives de notre enseignement, l'économie et la sociologie. On n'a pas de finalité de faire aimer l'État, de faire aimer l'entreprise, de faire aimer tel ou tel... Ça, il ne me semble pas que ça soit une finalité d'un enseignement scolaire, ni non plus de le faire détester, on est bien d'accord. C'est qu'il me semble que parmi aussi les choses importantes qu'on doit faire, à apprendre en tout cas l'apprentissage dans les capacités que des élèves de sciences économiques et sociales doivent avoir en fin de cycle terminal, c'est à faire une distinction entre des jugements de valeur et des jugements de fait. Et il me semble que donc, autrement dit, il ne s'agit pas d'insuffler aux élèves qui font l'enseignement de SES le souffle de l'esprit d'entreprendre, l'esprit Etula d'ailleurs. Je signale une petite expérience biographique. J'ai été invité pour un colloque de l'Institut néerlandais sur la mondialisation, donc les Pays-Bas et la France face à la mondialisation, donc, qui était présenté. Donc, la France ne s'adapte pas à la mondialisation, paraît-il, les Pays-Bas très bien. Et on me demandait d'intervenir parce que l'enseignement de sciences économiques et sociales, paraît-il, est responsable de le manque de désir d'entreprendre en France. Voilà. Et nommément, on me demandait de réagir à ça. Je suis désolé, mais je suis atterré. J'ai répondu qu'évidemment, on ne peut pas demander un enseignement qui ne touchait à l'époque que 43% des élèves de seconde, peut-être 20% de l'ensemble des élèves du cycle terminal, d'être responsable d'un supposé mésamour de l'entreprise qu'il faudrait en plus établir, parce qu'il ne me semble pas que dans les enquêtes d'opinion, on la voit véritablement. Voilà. Mais évidemment, donc, les professeurs de sciences économiques et sociales de ne pas avoir une caricature de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on doit montrer la diversité des entreprises. Donc en seconde, par exemple, ce qu'on faisait auparavant, on montrait qu'il y avait des entreprises, et là je vous rejoins, hein, du secteur social également. Donc il y a des entreprises qui ont pour objectif de faire du profit, mais il y a également des entreprises qui ont d'autres finalités, et donc en particulier les SCOP. Mais par contre, il me semble que dans mon premier cours de microéconomie à l'université, on a commencé pour expliquer, donc là, moi je prends le programme de première, la production d'entreprise, comment l'entreprise produit-elle? Il s'agit de montrer une combinaison de facteurs de production pour réaliser du profit. Là, d'un strict point de vue microéconomique, et là, sans point de vue idéologique là-dessus, sans dire le profit c'est mal non plus, hein, parce qu'il faudrait peut-être développer en quoi le profit serait mauvais, ça fait pas partie du rayon du professeur de sciences économiques et sociales. Voilà.
Oui, moi, je voulais revenir sur toute une série de discussions qu'il y a pu avoir. Je crois effectivement, vous disiez Michel Berry, qu'on enseigne surtout les certitudes, hein, que c'est un peu une des caractéristiques de l'enseignement en France. Bon, ben, c'est certain qu'il n'y a rien de plus agréable d'enseigner que les mathématiques. Moi, voilà. Quand j'ai fini ma thèse, j'ai donné des cours de mathématiques chez Pigier. Je n'ai jamais eu autant de plaisir d'enseignant qu'en donnant des cours de mathématiques chez Pigier. J'ai été très tranquille sur ce que je pouvais raconter. Bon, alors, cela étant, je pense que la transposition de ça à l'ensemble des disciplines est effectivement une erreur, y compris pour la physique. Moi, je serais désireux que, je suis un peu historien des sciences, de faire effectivement plus d'histoire des sciences, de montrer comment les catégories physiques ont été construites dans l'histoire. Je pense que ça permettrait de pénétrer au fond, alors qu'en en définitive, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps en physique? On apprend simplement quelques algorithmes qui permettent de faire effectivement des calculs sans que les catégories elles-mêmes aient été comprises. Moi, je recommande à tout le monde ici un merveilleux petit ouvrage, quelqu'un qui s'appelle Sandori, qui enseignait la mécanique aux architectes qui n'avaient pas forcément la formation scientifique, qui s'appelle Petite logique des forces, disponible en collection Point Seuil, et qui vous raconte toute la mécanique à partir de Stevin et Galilée. Et on comprend effectivement toute la genèse des concepts jusqu'au fin du 19e, pour comprendre effectivement la genèse des concepts de mécanique. C'est comme ça qu'on comprend la physique quantique. Mais effectivement, de partir effectivement de la façon dont les gens se sont posés les problèmes, je continue à penser que c'est la meilleure manière de concevoir les concepts. Alors, ça nous ramène à la question des sciences économiques et sociales qui, effectivement, peuvent difficilement relever d'une telle logique. Alors, on revenait à cette idée de la fonction citoyenne. Moi, ce que je crois voir, en fait, dans les nouveaux programmes, c'est une espèce de fuite dans la technicité pour échapper, effectivement, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, on traite d'objets dont on va parler à table autour de la télévision, qui créent forcément des tensions de nature idéologique. Et donc, on a une espèce de fuite dans la technicité pour échapper à ça. Technicité, souvent, qui est d'ailleurs idéologiquement orientée, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais comme si ça permettait d'échapper au problème en reconstituant des certitudes là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que même quand on est à des hauts niveaux de technicité, vous nous le disiez clairement, on retrouve finalement des problèmes qui font débat. Et je pense que c'est une erreur parce que effectivement, on finit par, un peu comme ce que je disais pour la physique, on va produire des singes savants. C'est-à-dire, on peut très bien effectivement avoir des gens qui vont vous calculer très justement l'élasticité, mais ils n'ont rien compris de ce que c'est. Pour être très sincère, c'est un peu mon expérience. Moi, j'ai appris les sciences économiques, donc j'ai suivi mes cours entre 1974 et 1978, à l'époque où c'était le début de l'introduction de l'enseignement néoclassique. Dans les universités françaises, on faisait venir des assistants de maths pour le faire parce que à l'époque les économistes étaient absolument incapables d'enseigner ça. Les assistants de maths connaissaient absolument pas les concepts, mais ils savaient nous faire les manipulations. Très sincèrement, moi j'étais bon en maths, j'avais un bac C, j'avais aucun problème de ce côté-là. Je n'ai absolument rien compris, je faisais tout ce qu'on me demandait, j'avais de bons résultats. J'ai à peu près compris les concepts économiques quand j'ai été amené les enseigner, pas avant. Donc voilà, cette fuite dans la technicité, moi elle m'inquiète. Alors, dernier point là-dessus, c'est ce qui a été dit tout à l'heure à propos de la science passée, le fait qu'effectivement, on n'enseigne pas... Bien sûr, je crois qu'il faut effectivement renouveler régulièrement en fonction de l'évolution des disciplines, mais ça ramène à ce qu'on disait à propos de l'enseignement scolaire. C'est sûr qu'à bien des égards, on enseigne des mythes. La discussion libéro-keynésienne, ok, bien sûr, ce sont des mythes, mais au fond, je crois qu'on ne peut pas échapper à ça. C'est d'une certaine manière la construction d'une espèce de culture commune. Je veux dire, quand on raconte Louis XIV, siècle du roi soleil, c'est pareil, c'est un peu une espèce de construction dans une culture commune. Bon, les Trente Glorieuses, moi je déteste ça. Je veux dire, c'est une formule qui a pris, à mon avis, une importance absolument excessive dans l'enseignement classique de sciences économiques et sociales. Mais on a besoin, au niveau du secondaire, je pense, de ce type de point d'appui, si conventionnel soit-il, et il faut savoir les réviser de façon régulière. Mais je pense que c'est une erreur. Effectivement, j'étais assez d'accord avec ce que disait la personne tout à l'heure. Je pense que c'est un peu une erreur de prétendre trop coller à la science telle qu'elle se fait. Il faut trouver, de mon point de vue, là, un équilibre entre cette révision régulière et peut-être sortir des mythes qui ont trop vécu. Moi, je serais assez volontiers pour sortir les Trente Glorieuses. Et puis, malgré tout, savoir que de toute façon, à ce niveau-là de l'enseignement, c'est toujours sur des constructions un peu mythiques comme ça qu'on s'appuiera.
Je voudrais juste un point, l'opposition, enfin le clivage entre ceux qui croient complètement au marché, qu'il est stabilisateur, et ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessairement stabilisé, qu'il y aura éventuellement des crises. Si c'est ce que vous appelez un mythe, c'est un mythe permanent. Il a traversé l'histoire du 19e siècle, et il revient, et il est au cœur de la construction de savoir qui s'est faite. Et moi, donc, je pense que c'est une construction de savoir. Donc on peut parfaitement dire que c'est un problème, et autant leur donner la version la plus récente que la version des années 50. Voilà.